France Info.
Et à la une de ce 19 novembre, des obsèques sous très haute sécurité, gilets pare-balles, policiers d'élite, retour sur l'enterrement de Mehdi Kessassi, le frère d'un militant anti-drogue à Marseille. À la une aussi, la taxe foncière, nous en parlions, qui va grimper. Un nouveau calcul sera appliqué l'an prochain et si vous êtes propriétaire, vous allez sans doute devoir payer plus cher. Vous entendrez dans ce journal que des militants anti-immigration anglais viennent désormais sur les plages françaises pour, je cite, chasser les migrants. Et puis la France éliminée de la Coupe Davis de tennis avec une grosse boulette de Corentin Moutet. L'émotion était immense hier à Marseille, le dispositif de sécurité aussi pour les obsèques de Mehdi Kessassi, ce jeune homme qui a été assassiné la semaine dernière, frère d'Amin Kessassi, un militant anti-trafic dans les quartiers qui a déjà perdu un autre frère dans un règlement de compte il y a 5 ans. Un crime d'intimidation, dit le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, et des funérailles sous étroite protection de la police, Laurent Grollet.
Dans la petite rue étroite qui borde le cimetière du 16e arrondissement, le cortège de la famille d'Amin Kessassi est tout simplement exceptionnel. 5 à 6 véhicules de police encadrent un van noir. Le cortège a quitté le cimetière à vive allure. À l'intérieur, j'ai pu voir ces policiers d'élite portant une cagoule. Amin Kessassi, le grand frère de Mehdi assassiné jeudi dernier, portait un gilet pare-balles lors de la cérémonie un peu plus tôt à la mosquée de Frévalon. Avant l'arrivée des proches et de la famille, une femme est venue rappeler que les journalistes devaient s'abstenir de prendre la moindre image de la cérémonie. Elle nous rappelle la notion de respect, bien sûr, mais surtout un désir de ne pas être reconnu. On est en danger en accompagnant la dépouille d'un proche au cimetière. On en est là, a-t-elle hurlé en pleurs. Le petit village de Saint-Henri n'avait sans doute jamais vu autant de policiers. J'ai compté au total une quinzaine de véhicules. Inhumation donc sous très haute sécurité avec un message, celui d'un ami porte-parole de la famille. Restez fort. Malgré l'épreuve.
Laurent Grollet d'ici Provence pour France Info. Si vous êtes propriétaire, préparez-vous à devoir payer plus cher votre taxe foncière l'an prochain. Ce sera le cas pour plus de 7 millions de logements. Décision de Bercy qui a fuité hier soir dans la presse avant d'être confirmée par le ministère. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
Alors pourquoi cette hausse ?
Eh bien, il s'agit d'une hausse mécanique car Bercy va mettre à jour ses fichiers logements pour une question d'efficacité et d'équité de l'impôt. Voilà la justification du ministère. Alors pour bien comprendre, il faut savoir comment se calcule la taxe foncière. Elle prend en compte la taille du logement, la surface, ça on le sait, mais pas seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle les éléments de confort. L'administration en liste 6, le raccordement à l'eau, à l'électricité, avoir une baignoire, une douche, un WC, un lavabo et un chauffage. Et pour chacun de ces éléments, on ajoute quelques mètres carrés au calcul. Or, selon Bercy, 7 200 000 logements échappent à la prise en compte de tous ces éléments de confort. C'est ce qui va être mis à jour, soit 10% des logements soumis à la taxe foncière. De quoi remplir un peu les caisses des collectivités locales en souffrance, avec encore des efforts demandés dans le prochain budget. Mais pour les propriétaires, c'est un nouveau coup dur. En 10 ans, la taxe foncière a bondi de 37%, deux fois plus que l'inflation. Ces propriétaires pourront contester s'ils ne sont pas réellement équipés de ces installations, précise la direction des finances publiques.
Merci Mélodie Pépin. Au moins 13 personnes ont été tuées par une frappe israélienne sur un camp de réfugiés au sud du Liban, selon les autorités du pays. Alors qu'un cessez-le-feu est en place dans la zone depuis un an maintenant, l'État hébreu de son côté affirme avoir frappé un camp d'entraînement du Hamas. De 3 à 15 ans de prison, 8 ressortissants afghans et irakiens ont été condamnés hier à Paris après le naufrage en 2023 d'une embarcation de migrants dans la Manche. Les 8 hommes étaient accusés d'avoir organisé cette traversée qui a coûté la vie à 7 personnes. Un drame, comme la Manche, continue toujours d'en connaître et ces traversées ne faiblissent toujours pas. Face à cela, au Royaume-Uni, les mobilisations anti-migrants prennent de l'ampleur à tel point que des militants du mouvement Raise the Colors, hisser les drapeaux, viennent jusqu'en France, sur les plages pour, je cite, « chasser du migrant », Gaël Joly.
Sur les vidéos, Elliot Stanley et Ryan Bridge, les fondateurs du mouvement Raise the Colors, se filment avec la mention « Chasse aux migrants » sur les plages françaises. Ici, on les voit frapper un moteur de bateau avec un bâton, piétiner des gilets de sauvetage. Un peu plus loin, ils vont au contact des migrants.
Where are you from? Sudan. You gone to England?
Fuck. Ryan Bridge a ensuite raconté son expédition sur la chaîne conservatrice britannique GB News et a dénoncé ce qu'il a vu sur la plage.
Ils ont des gilets orange. Ce qu'ils s'apprêtent à faire est évident. Et c'est évident aussi que les 2 ou 3 policiers qui sont là ne vont pas intervenir. Pourquoi notre gouvernement donne tant d'argent chaque année à la France, tous ces millions d'euros, pour en arriver là? Le pays a besoin d'aide.
Pour les associations, la menace d'extrême droite s'est accéléré ces dernières semaines. Yann Manzi est le fondateur d'Utopia 56 qui vient en aide aux migrants.
On les a signalés depuis le mois de juin, ça a commencé. À chaque fois qu'ils sont venus, on a fait les signalements. Et les autorités, ce qu'on trouve bizarre, c'est qu'elles réagissent pas sur le littoral. Et que par contre, ils puissent faire leurs vidéos et qu'il se passe rien.
En octobre dernier, le parquet de Dunkerque a ouvert une enquête pour violence aggravée commise sur des migrants. Mais les ONG réclament plus de soutien des autorités.
Gaëlle Jolie, correspondante à Londres de France Info. Avant-hier, l'Ukraine a déclaré son intention d'acheter une centaine de Rafales, les avions de chasse français, lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. C'est une bonne nouvelle, se félicite désormais la CGT de Dassault en Gironde. Les carnets de commandes sont déjà pleins pour l'usine de Martignas-sur-Jal. 700 salariés qui y fabriquent les voilures de ces appareils, qui sont ensuite assemblés sur le site voisin de Mérignac par 3100 employés. C'est un territoire donc tout entier qui se félicite, Jules Brelaz.
Ce bruit-là, c'est Samuel qui imite.
Les moteurs des avions.
Comme beaucoup à Martignas-sur-Jal, ses enfants rêvent tous de la même chose.
Être pilote d'avion parce que c'est chouette d'aller dans les airs.
Certains ont un papa ou une maman qui travaille dans les usines aéronautiques de Martignas et Mérignac. Ici, l'annonce d'un futur achat de 100 Rafales par l'Ukraine ne laisse personne indifférent, surtout pas Romain Fougerolles, délégué syndical central CGT chez Dassault Aviation.
On peut voir ça comme une bonne nouvelle, mais après on rappelle, nous, la CGT, que c'est juste une intention. Mais bien entendu, qui dit charge supplémentaire dit des embauches, le travail pour les sous-traitants, pour les petites entreprises qui bossent pour Dassault, ça peut être que positif.
Surtout après les ventes de Rafale à l'Inde, l'Indonésie et les Émirats arabes unis, Dassault Aviation fait décoller les finances de la commune de Martignas-sur-Jal selon son maire Jérôme Pessina.
Effectivement, il y a un ruissellement assez conséquent. Avoir une grosse entreprise comme ça sur son territoire, c'est une chance. Avec tous ces employés qui y habitent, qui y consomment, sur l'établissement de Martignas, c'est près de 1000 personnels dans une ville de 8000 habitants, c'est pas rien.
Le chantier du futur hôtel de police de la ville en témoigne. Alors les enfants de Martignas peuvent bien s'entraîner.
Test 1, 2, 1, 2.
Attention, zone de turbulence.
Mais non, aucune turbulence en vue dans le berceau girondin de Dassault Aviation.
Un reportage ici, Gironde, de Jules Brelaz pour France Info. La France est déjà sortie de la Coupe Davis de tennis, éliminée hier en quart de finale par la Belgique. Les deux Français ont perdu leur simple. Arthur Rinderknecht a battu, ironie du sort, par un certain Zizou Bergs. Et Corentin Moutet lui a été défait par Raphaël Collignon, avec sans doute une grosse bourde du Français en fin de match. Fabrice Abgral, un coup entre les jambes improbable qui lui a coûté la rencontre.
Et là, à 6 jeux à 5 dans le deuxième set, Corentin Moutet a tenté mais raté un coup insensé, une demi-volée entre les jambes alors qu'il pouvait effectuer une simple volée. Un choix surprenant, incompréhensible, Corentin Moutet le sait.
Quand je rate ce coup et que à la fin je perds le match, je me dis que je suis un clown, que j'aurais dû faire peut-être quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que de claquer la volée aurait été un choix plus judicieux à ce moment-là.
D'où l'étonnement de son adversaire, Raphaël Collignon.
Tenter ça dans un moment aussi important, il fallait vraiment être sûr de son coup. Et finalement, il a été un peu ridicule sur ce coup-là parce que c'est complètement raté.
À la fin du match, Paul-Henri Mathieu, le capitaine français, n'a pas voulu réagir. Mais il donnait l'impression de contenir sa colère.
J'en discuterai avec lui. Pour l'instant, tout est encore très très chaud.
À la question si l'un de vos joueurs avait tenté un tel coup, Steve Darcy, le capitaine belge, répond sans détour.
Je lui pète la gueule, j'en sais rien, mais maintenant, c'est un magicien, c'est un mec qui joue comme ça. Donc je pense pas qu'on peut lui en vouloir.
Et d'ailleurs, les 150 supporters français présents à Bologne ne lui en veulent pas, à l'image de Brigitte.
Non, on peut pas lui en vouloir, mais on le comprend pas. On dit mais pourquoi pas à ce moment-là.
Cette demi-volée entre les jambes, Corentin Moutet l'a réussi des centaines de fois. En tournoi, ça n'engage que lui, mais là, il a précipité sa chute et celle de l'équipe.
Fabrice Abgral, et puis les miracles de Lourdes, on y croit ou pas, mais là, c'en est un à coup sûr, Christine. Une Américaine, de retour de son pèlerinage, a oublié son sac sur une aire d'autoroute de Lavin près de Montauban, un sac Vuitton avec 7 500 $ à l'intérieur, un sac qui a été retrouvé, restitué à la Californienne et avec à l'intérieur les liasses de billets. Vous rendez compte ?
On n'est pas des voleurs dans le sud-ouest.
Exactement, vous connaissez bien le sud-ouest, Christine. Peña pour votre météo, oui. Avec cette pluie qui arrive dans le froid et ça va donner de la neige.
Neige, d'abord en montagne, mais c'est vrai, à basse altitude, de plus en plus bas, du grésil également, des giboulées certainement entre la Normandie et les Hauts-de-France par exemple, sur tous les massifs, il devrait neiger, mais à partir de 400 à 600 mètres d'altitude cet après-midi, et ça va s'abaisser durant la soirée et la nuit prochaine. On pourrait avoir un petit épisode là de neige jusqu'en plaine, surtout entre l'Auvergne et le Nord-Est, peut-être sur Paris également. On a un ciel qui reste gris, le soleil, on va le chercher entre l'Occitanie et la région PACA. Quelques températures pour ce matin, ça fait froid. Alors, moins 5 degrés à Aurillac, moins 2 du côté d'Agen, moins 1 à Toulouse comme à Clermont-Ferrand. Il fait 5 degrés à Brest, à Paris, à Bordeaux, ainsi qu'à Lille.
Merci Christine Peña, 5h10.